Vous écoutez
RMC.
RMC.
Ouais, juste pour conclure, il y a une phrase célèbre dans le foot.
C'est insupportable. La Poste vient de voir, tu reçois un mail en disant faut le noter. Tu regardes un film, on te dit qu'il faut le noter. Ben, allez vous faire voir, les gars.
Di Maria, il est tout seul. Di Maria, t'es nul. Mais t'es nul, Di Maria. Il a frappé au-dessus, Di Maria. Di Maria, tu es nul.
The best league in the world. Come on, the Premier League. Every single day.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Vous avez reconnu les voix, les quatre drôles de dames, elles sont là ce soir.
Puis les quatre styles. Hein.
Quatre styles très différents, quoi.
Ouais.
Entre le.
Ça le la diversité. Serait bien passé, la mienne, non, mais bon.
Si vous voyez,
le style Rocco Siffredi de
Yvan Rocher, que ce générique est à l'antenne. Voilà, faut assumer, écoutez comme ça. Personne t'en veut, hein. Enfin, lapsus révélateur, en plus, on le sait, ça n'existe pas, ce genre de
choses. Tu sais pourquoi? C'est parce que j'avais Ranieri en tête. Et je vois enchaîner Ranieri,
foot, ça fait
la vieille excuse. On dirait Jürgen Klopp.
Non,
on dirait Jürgen Klopp.
Tu reprendras le jour où le débat était fait.
Jürgen Klopp.
Déclaration de Bourdisseau, on s'entraîne comme on joue au foot. Et Ranieri derrière, il bouge.
Je joue au foot, Ranieri. Voilà, c'est ça.
Ouais.
Un peu tiré par les cheveux. Bon.
Surtout pour un chauve, hein. Moi aussi. Hein, mais...
Lopetegui, il a encore des cheveux, je crois. Je crois qu'il camoufle un peu.
Il camoufle
cheveux,
mais...
ici, je crois.
Non, mais bon.
En tout cas, il est bientôt plus l'entraîneur de Séville, frère.
Non, réunion ce soir des dirigeants de Séville, c'est absolument intenable.
Après, ça fait trois semaines, un mois qu'on dit que c'est intenable.
Ouais, mais sauf que là, attends, ils sont 17e de la Liga, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça, 17e.
Ils ont 5 points sur les 21 possibles. Aujourd'hui, l'objectif de Séville, c'est pas le titre, c'est pas la Ligue des Champions, c'est pas l'Europe, c'est rester en première division quand même, tu vois. Donc on a quand même changé une équipe qui est toujours en Ligue des Champions quand même. Hein.
Ça fait.
On se retrouve avec un Lopetegui qui les trois derniers matchs à domicile, toutes compétitions confondues, c'est 9 buts encaissés, 0 marqué. C'est intenable. Mais moi je vais défendre Lopetegui. Mais ils ont déshabillé son équipe.
Ah oui, tu l'as dit.
Monchi doit se faire dire aussi.
Le responsable, c'est Monchi.
Eh ben, merci de le dire.
Bon, parce on que l'a dit, Monchi, la défense centrale,
Non, mais Monchi, il est intouchable. Mais c'est lui. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des obligations financières.
C'est terrible, quand même.
Et pour moi, il y a une phrase. Je l'ai dit en tout début de saison. Ça m'avait choqué, mais je le redis aujourd'hui. Quand vous avez quelqu'un comme Monchi qui vend Jules Koundé au Barça, et qui dit ah non mais le Barça n'est pas un rival direct pour nous, en gros il y a un truc. Ça plombe une saison. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu joues pas le titre, tu joues pas
le Lopetegui, il est bien gentil, il dit rien. Il accepte.
Ah, il dit jamais rien, Lopetegui. Moi je l'aime bien.
Mais il dit rien, il se fait dépoiler, il a pas de matériel.
Non.
Il va prendre son chèque, il va partir.
Alors le truc c'est que le pire pour Séville c'est que les dirigeants sont capables de faire un coup et le nom circule de faire revenir Sampaoli qui était très mal parti, qui les avait plantés. Hein. Il y avait l'histoire de sous. Il avait provoqué un départ salement pour que l'Argentine, la section argentine, n'ait pas à payer la clause libératoire. Et donc là, on voit que les dirigeants sont prêts à faire un coup de communication parce que c'est vrai que Sampaoli, tu vas avec son style, avec sa façon d'être, tu vas pas regarder le terrain au début, tu vas regarder que Sampaoli et ça permet de gagner quelques jours.
Bon, c'est lui qui sera mercredi soir.
Il les a qualifiés en Ligue des Champions quand même.
Oui, bien sûr. Mais il était parti salement en cours de saison.
Ouais.
Il avait planté Grenade avant d'y aller à Séville. Il plante Séville pour l'Argentine.
Il a planté Marseille un petit peu aussi.
Ah, ça c'est pas
faux. On l'a aidé à planter peut-être.
Bah, c'est un autre débat.
Séville Dortmund mercredi soir 21h en phase de poule de Ligue des Champions, bien sûr, messieurs. Alors, trois belles surprises dans vos championnats respectifs. Je pense à toi, Fred, à Polo et à Johan. Commençons par Freiburg. Je sais pas comment on le dit en allemand, c'est ça, hein, Freiburg.
Freiburg. Oui.
Freiburg.
Fribourg en français.
Sur les chevilles de l'Union de Berlin, avant d'accueillir Nantes d'ailleurs, jeudi en Europa League.
Tout à fait. Je dis toujours, n'analysons pas le club de Fribourg à l'aune de nos critères habituels qui changent toutes les semaines. Fribourg, c'est un club qui est un modèle en Allemagne qui se construit petit à petit à l'image de.
Et qui est co-leader actuellement, je le dis. Hein,
qui est co-leader, qui a gagné un match un peu compliqué ce week-end contre Mayence, enfin, très belle première mi-temps. Beaucoup moins la seconde, et qui aime se faire passer pour plus petit qu'il n'est. En gros, il vise le maintien chaque saison, etc. Ce qui est d'ailleurs un peu l'histoire des 20-25 dernières années avec ce club, le club du Bad Wurtemberg. Et si tu veux, on oublie qu'ils ont inauguré leur stade, leur nouveau stade l'année dernière, passant de 24 000 à 35 000 places. 34 000 places aujourd'hui. Ils ont quasiment que des internationaux à chaque poste. Tous les postes en attaque sont doublés. Ils commencent à faire des transferts à 8,5 millions. Il y a historiquement, comme c'est évidemment un club qui est très proche de la frontière française et notamment de Strasbourg, et ben la colonie historique des Français qui jouent en Bundesliga, c'est dans l'histoire des colonies qui arrivent en
Fribourg.
Ah bah tu as eu le dernier, c'est Santa Maria. Là on a le jeune Sidilia qui est excellent, qui est ouais, mais ils font une belle plus-value en attendant avec lui. Il y a Jonathan Schmidt qui est là. Par le passé il y a eu Coquelin qui est passé pendant un an, qui avait été prêté, etc. Vous avez toujours un petit peu ce club là qui a aussi cette spécificité, c'est d'avoir eu seulement 4 coachs depuis 1991, dont le premier qui était resté 16 ans. Et là on a Christian Streich qui a été élu meilleur coach l'année dernière de Bundesliga, et dont je rappelle ce que pense Uli Hoeneß de lui, qui dit au Bayern on n'a pas eu le courage d'aller le chercher et de le recruter. Donc ça te met un peu le niveau du coach, mais lui il est très heureux là-bas. Et Fribourg, si tu veux, c'est vraiment ce club qui regarde ce qui s'est passé il y a 10 ans. Tu regardes où on en est aujourd'hui pendant la pandémie, alors que tous les clubs en Europe ont des difficultés, etc. Eux ils sortent un profit de 10 millions d'euros, tu vois, tranquille. T'as l'impression que la pandémie ça n'existe pas chez eux. C'est considéré comme un modèle par le football allemand et par les instances qui sont toujours en train de le féliciter, évidemment. Modèle associatif, autofinancement à 100%, etc. Et par contre, ils ont cette spécificité, encore une fois. C'est même une expression qui est passée dans le langage allemand, qui est le Gallisches Dorf, le village gaulois qui résiste aux grosses multinationales, aux gros clubs autour d'eux. Sauf que lorsque tu regardes l'équipe, ben finalement, tu comprends pourquoi ils ont été 6e l'année dernière, pourquoi ils ont été en finale.
Le top 3 des joueurs de Fribourg actuellement.
Ah bah, le meilleur, c'est un international italien, c'est Grifo. Il fait partie du groupe, même s'il est pas, il rentre pas sur le terrain.
Très beau joueur.
Tu as un joueur, c'est vraiment lui la starlette de l'équipe. Tu as un joueur qui est malheureusement blessé, qui sera pas là jeudi. C'est le Hongrois Salah, que moi j'adore. Mmh. Ils ont été chercher le Japonais Doan, qui, dans son style au PSV Eindhoven, c'est quand même important qu'un club comme Fribourg commence à aller chercher des joueurs du niveau d'un club comme Eindhoven. Tu as évidemment en défense centrale Matthias Ginter, le champion du monde 2014, qui est né à Fribourg. Ils ont perdu Nico Schlotterberg, qui est parti à Dortmund, mais avec les 20 millions, ils récupèrent Ginter gratos. Ils ont un côté, et ça c'est un truc qui est nouveau. Par exemple, le que connaît Johan aussi, le gardien néerlandais Flecken, aujourd'hui international. Lorsqu'il est arrivé, c'était un illustre inconnu. Linhart, lorsqu'il est arrivé du Real Madrid, c'était un illustre inconnu, l'Autrichien. Et aujourd'hui, ils sont devenus internationaux grâce à ce que fait Fribourg et aux résultats de Fribourg. Et donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de regarder ce genre de club qui n'est pas à la mode, dans le sens où ils sont pas là pour aller rafler les titres, tout ce qu'on veut, mais ils sont dans leur optimum en ce moment. Et je peux t'assurer que ça va pas être une partie de plaisir pour le club français jeudi, Nantes et sa fabuleuse histoire à l'Europark Stadion.
Ce sera jeudi soir, exactement. Spécialité culinaire Fribourg, tu sais ou pas? Non, on parle de fondu apparemment, moitié-moitié.
C'est une bonne question.
Allez faire les marchés de Noël à Fribourg, en tout cas.
Ah, jamais fait. Marché de Noël à Fribourg.
C'est très très sympa. Déjà, la ville,
tu
le centre-ville
de Fribourg.
Ah
bah,
le Fribourg.
Tu prends le train, tu vas à Fribourg.
Moi, j'aime beaucoup le centre-ville de Fribourg. Je trouve ça très joli. Les petits canaux, là. Enfin, c'est tout petit, hein, mais.
Oui, c'est la petite ville de province, comme tu aimes.
Ouais. Très authentique.
Très authentique. Alors, je vois le Christian Trage, justement. Lui, c'est un mec qui prend position sur les migrants à l'époque où Merkel, avait ouvert les portes et que l'Allemagne gueulait. C'est lui qui dit l'écologie, c'est pas ça. Donc, il y a tout plein de choses. Il y a un côté, le club de Fribourg, c'est vraiment un peu un paradis footballistique, mais aussi sur une vision de la société très social-libérale, très social-démocrate, si tu veux, qu'on voit pas forcément dans d'autres clubs.
Bon, c'est la fondue également, la spécialité là-bas, avec messieurs de l'ail, farine de maïs, vin blanc, du kirsch et de poivre, de cayenne.
Le vin blanc, voilà. Ça, le vin, c'est un bon vin.
Ça, ah ouais, c'est très bon.
La fondue.
Moi, j'aime bien le vin blanc allemand.
Il est pas mal, la route des vins. On le fera, Fred, un jour.
Le Givur,
on demandera à RMC une rallonge.
Tu l'as déjà la rallonge.
Non mais écoute,
tu l'as venu la semaine dernière. Oups, pardon.
Si Julien tient son pari, il nous invite dans un resto.
Resto anglais.
Allemand.
Ouais. Messieurs, l'autre surprise, une des trois surprises qu'on voulait évoquer ce soir dans les drôles de dames dans Génération After, c'est l'Athletic Club. On parle de Bilbao, hein.
Oui.
Pays basque.
Merci de dire. C'est
encore
bien.
Un carton 4-0 ce week-end. Quand Bilbao gagne, c'est minimum 4 buts en général cette saison.
Oui,
troisième de Liga, troisième attaque de Liga également.
Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que ils ont deux joueurs extraordinaires qui s'appellent Nico Williams et son frère, Iñaki Williams et son petit frère Nico Williams. Alors, c'est des gens qui sont originaires du Ghana, les parents,
des
réfugiés. Iñaki s'appelle Iñaki parce que c'est un curé basque qui avait aidé les parents à venir s'installer à Bilbao.
Alors que la maman était enceinte de l'aîné.
Et donc Iñaki est né à Bilbao. Ce qui fait qu'il
s'appelait Iñaki.
Le prêtre s'appelle Iñaki, donc c'est pour ça qu'il a donné son prénom. Et en fait, on se dit, mais comment, en étant des parents du Ghana, tu peux être basque? Parce qu'ils sont nés au Pays basque. C'est-à-dire que vous connaissez cette
tradition.
Cette tradition qui est plus qu'une tradition, qui est une règle de vie, c'est que pour pouvoir jouer à l'Athletic Club de Bilbao, il faut être basque, c'est-à-dire basque espagnol ou basque français, c'est-à-dire que Deschamps, à un moment, ils voulaient, il y a eu Lizarazu, bien entendu, ils avaient voulu Deschamps à un moment, parce que le Bayonnais Deschamps était basque, donc ils avaient essayé de l'avoir, mais il était trop cher. C'est aussi les gens qui viennent de la Navarre, qui est considérée, c'est une autre région d'Espagne, qui est considérée comme le grand pays basque historique, et aussi la Rioja, où on fait le vin, mais aussi, par exemple, un Argentin, par exemple, aurait pu jouer à l'Athletic Club de Bilbao. Parce qu'il y a eu un grand-père ou une grand-mère basque suffisent à avoir l'ADN basque et donc de pouvoir jouer à l'Athletic Club. Ce qui fait que comme il y avait une forte immigration basque en fin du 19e siècle et début du 20e en Argentine, eh ben, il y a des joueurs argentins qui sont d'origine basque. Donc à un moment, c'est un marché qui avait été très étudié du côté de Bilbao. Alors,
pourquoi ça marche cette saison?
Ben, ça marche pour une raison très simple, c'est qu'ils ont de très bons joueurs. On a parlé des frères Williams, puis ils ont fait revenir un excellent entraîneur, Ernesto Valverde, voilà, qui a été vilipendé parce qu'il
y a deux ans et demi viré du Barça.
Ah oui, seulement viré du Barça, c'est un excellent entraîneur.
Alors, il est deux fois champion d'Espagne.
Mais bien sûr, c'est l'un des meilleurs entraîneurs d'Espagne, mais sans aucun doute, c'est un bon mec. Moi, j'adore parler football avec lui. C'est quelqu'un qui est une conscience du football qui... Moi, je me souviens, après une conférence de presse, après un Madrid-Barça, il avait gagné contre Zidane et je lui avais demandé s'il se considérait meilleur entraîneur que Zidane. Et il m'avait regardé comme ce que j'étais, c'est-à-dire un compte journaliste, en disant mais
c'est un peu confrère,
bien
parler.
Sûr. Oui, bah après voilà, c'était le truc. Fallait parler de Zidane en même temps. Et il me dit mais il faut vraiment être con pour juger la qualité d'entraîneur sur un match. Non, mais c'est quelqu'un qui a
bonne réponse.
Ben oui, il avait raison. Question con, réponse con. Mais c'est vrai que Valverde était aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été nommé par les supporters, par les socios, parce que Polo parlait de Fribourg, l'Athletic Club de Bilbao, c'est aussi un associatif. C'est un club qui, comme le Barça et comme le Real, appartient à ses socios. Et c'est marrant, c'est l'un des ces trois clubs-là qui ne sont jamais descendus en deuxième division
depuis 1929,
qui a été créé la Liga, le championnat espagnol
est en Liga, c'est incroyable.
Et donc cette équipe, il y avait des élections à la présidence et il y avait deux présidents. Qui disait que si je suis élu, eh ben ce sera Ernesto Valverde, l'entraîneur. Il avait un accord avec deux candidats. Et il y avait un autre qui proposait, qui disait, si je suis élu, eh ben ce sera Bielsa. Et bien entendu, parce que je suis le premier à l'avoir dit, que Bielsa a laissé une très mauvaise image à Bilbao et que les gens ont largement plébiscité le candidat qui présentait Valverde. Et donc ça marche, Uriarte en l'occurrence qui était élu, ça marche très bien. Alors le revers de la médaille, c'est un club très riche. Pourquoi ils sont très riches? Déjà parce qu'ils ont un gros public, donc ça c'est bien. Mais en plus, la région basque bénéficie d'une fiscalité différente au reste des régions espagnoles. C'est ce qu'on appelle une communauté autonome. Ils sont très très autonomes. En gros, à part avoir des ambassades et frapper leur propre monnaie, c'est quasiment un pays indépendant. Hein. C'est-à-dire que ils ont une fiscalité qui est beaucoup plus basse. Donc l'impôt sur les sociétés, en l'occurrence là, l'association est moins fort qu'ailleurs. L'impôt sur le revenu est moins fort qu'ailleurs, ce qui permet de mieux payer les joueurs et de les retenir et de les faire venir, parce que tu sais très bien que tes ambitions, elles sont pas énormes, parce que comme le nombre de joueurs que tu peux acheter est réduit. Et moi je me souviens, il y avait un président qui avait acheté un jour Roberto Rio, je sais pas si vous connaissez, c'était un grand chauve qui jouait au Betis, et je sais plus, il avait dû payer 15 millions et il avait dit il a coûté 5 millions parce qu'il est un défenseur et 10 millions parce qu'il est basque. Voilà, donc c'est ça, c'est la philosophie.
Un bon joueur
Et je termine simplement. Cette philosophie, elle est merveilleuse, sauf qu'ils siphonnent tous les centres de formation du Pays Basque.
À la recherche.
Des pépites. Et comme ils ont plus d'argent, ils privent la Real Sociedad, ils privent Osasuna de petites pépites.
Ça vous plaît, les gars, l'histoire romantique du club de Bilbao?
Moi, au-delà de me plaire ou pas, ce que je trouve exceptionnel, c'est qu'avec de telles restrictions sur les joueurs, ils soient capables d'évoluer encore à haut niveau.
Depuis 93 ans.
Et même au niveau, c'est pas seulement rester en Liga, c'est-à-dire qu'ils sont clairement en Liga, toujours, en fait. Ouais. Et moi, je trouve ça incroyable, avec autant de restrictions dans l'évolution de ce football-là, d'être en capacité de jouer la première moitié de championnat quasiment tous les ans, quoi.
C'est l'antidote au football ultramondialisé. Là, on est vraiment dans du local. Après, malgré ces restrictions-là, je dirais même que c'est grâce à sa restriction et grâce à l'identité qu'il y a qu'ils se maintiennent tout le temps et qu'ils font des choses merveilleuses en Liga.
Voilà pour Bilbao. Dans un instant, on parlera de Brighton avec Julien qui se maintient dans le top 4 de Première Ligue malgré un changement d'entraîneur. Dans un instant, le direct Laval-Bordeaux, 10e journée de Ligue 2, Xavier Grimaud.
Ouais, la 31e, toujours 1-0 pour les Bordelais. Le but précoce de Josh Maja dès la 5e minute, ça s'est vite équilibré hein, quand même avec des Lavallois qui tiennent bien le ballon, qui ont eu des belles situations avec tout à l'heure, notamment la dernière. Nchobi, l'avançante bien lancée en profondeur, qui a sa frappe croisée était cadrée, sortie du bout des doigts par Gaëtan Poussin. Il y a des situations également hein, pour les Bordelais. Franchement, on voit un match de Ligue 2. On a vu les matchs de Ligue 2 avec beaucoup moins de rythme que celui-là. 1-0 pour les Girondins. Il reste 14 minutes avant la pause.
À tout à l'heure, Xavier. Dans un instant, donc Brighton. On évoquera également le Tottenham, dont on comptait d'une tristesse ce week-end absolue, battu par Arsenal. C'est Génération After, RMC 21h10. C'est à tout de suite.
RMC 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After sur RMC, 21h19 avec Fred Armel, Paulo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet. Messieurs, rapidement le direct, la Ligue 2, Laval-Bordeaux, Xavier Grimaud.
La 34e, 1-0 pour les Bordelais. Une situation il y a quelques instants pour Bordeaux. Une belle attaque placée avec Franck Sergio qui ouvre côté gauche pour Nsimba. Le centre, il est bon pour Josh Maja et la reprise du gauche du buteur du soir qui passe juste à côté des buts d'Alexis Sauvage. La réaction, on la va voir peut-être dans la surface. La frappe, trop croisée de la part d'Enchobi encore. 1-0 toujours pour Bordeaux. Mais vous le voyez, il y a des occasions, beaucoup d'occasions dans cette rencontre. 1-0, 10 minutes avant la pause.
Julien, Brighton a donc changé. On en a parlé dans Génération After. Le dame d'entraîneur Graham Potter et Pat Attlee, De Zerbi est arrivé. Il a commencé de manière spectaculaire son mandat à Brighton.
Ouais, très fort. Il a démarré très fort. On l'a vu avec sa petite célébration après le troisième but de Leandro Trossard qui s'est offert un triplé, l'attaquant belge. C'est très rare de marquer un triplé à Anfield quand vous ne jouez pas pour Liverpool. Seulement deux joueurs avant, hein, André Archavine pour Arsenal et Peter Nlovu pour Coventry l'ont réalisé. Donc bravo déjà à Trossard. Et bravo bien sûr à De Zerbi parce que sincèrement ils méritaient de gagner. Ils auraient pu à un moment être menés 3-0, 4-0. Ils avaient tellement bien commencé cette rencontre contre une équipe de Liverpool qui a beaucoup de problèmes, même si elle est revenue, même si elle a mené 3-2 au score à un moment. C'est une équipe qui a énormément de problèmes, on y reviendra tout à l'heure, surtout défensivement bien sûr. Mais pour Brighton, bravo à De Zerbi vraiment parce que il a eu un peu de temps pour travailler, mais il y avait quand même des internationaux.
Il boit du petit lait, Yvan Crochet, tu le vois pas là, mais il boit du petit lait.
Non mais si parce que samedi on a fait l'émission ensemble et on n'avait pas beaucoup de temps comme souvent les samedis soirs, donc j'ai pas pu parler on s'est concentré sur le derby de Londres, du nord de Londres, et donc il était pas content, il m'a envoyé plein de messages et tout, bref, et donc mais il a raison parce que
toi aussi
parce que bah oui, toi aussi. Très bien, Polo.
Ah, Yohan, vous harcèle comme ça?
Oui.
Comment ça, De Zerbi? T'as
Polo, j'ai rien envoyé sur De Zerbi, moi.
Non, mais il y a d'autres thématiques.
Un jour, il faudra nous révéler vos textos, les gars. C'est intéressant. Vas-y, Julien.
Non, mais son équipe joue avec un tel courage. Alors tactiquement, on savait qu'il allait, il a une façon de jouer assez particulière. Donc les deux milieux défensifs centraux, voilà, on savait très bien que notamment le piston droit allait sûrement avoir une occupation différente du piston de gauche. Et Stupinan et Solimarch, c'est ce qu'on a vu aussi. On a vu un Pascal Gross encore dans un rôle un petit peu différent, très proche de Danny Welbeck. D'ailleurs, si tu regardes la heat map des joueurs et la position moyenne de chaque joueur, c'est du De Zerbi tout craché. Et donc c'est vrai que c'était très beau à voir. Klopp on a profité dans un sens, je trouve, moi en tout cas, et je suis un peu critique sur Klopp là-dessus, dans après le match, en nous disant oui mais on n'a pas pu bien préparer cette rencontre parce qu'on savait pas comment cette équipe de Brighton allait jouer puisque c'était nouveau, c'est De Zerbi tout ça, ce dont je suis pas tout à fait d'accord parce que
De Zerbi tu le connais quoi.
Parce que tu le connais déjà, et puis deux, ils ont finalement joué beaucoup le football de Potter aussi, de Brighton avant. Voilà, il y a quelques changements, quelques petits changements tactiques, mais sinon, en repartant de derrière, dans ce qu'ils ont fait sans ballon, dans le contre-pressing, c'était dans l'intensité, c'était aussi, ça ressemble d'ailleurs. Après le match, De Zerbi a dit, moi, je suis pas là pour, je vais pas tout changer. Hein. C'est très bien ce qui s'est passé avant. Je vais juste apporter quelques touches par-ci par-là, mais sinon, ce sera la même chose. Et il a tout à fait raison. Donc voilà, je trouve que c'était un petit peu. Très pauvre de la part de Klopp de justifier la mauvaise performance de son équipe en disant ouais mais c'est normal, on n'a pas pu bien se préparer parce que c'était nouveau, c'était De Zerbi.
On parlera de Liverpool tout à l'heure avec Daniel Riolo qui nous rejoindra d'ici une vingtaine de minutes. Vas-y Polo.
Je crois qu'on avait déjà parlé un peu, Juju. Il y a quand même un joueur moi qui m'épate dans cette équipe de Brighton, c'est un Allemand, tu le connais, c'est Pascal Gross. C'est quand même quelqu'un qui débarquait soit de très très bas de classement de Bundesliga pour ne pas dire seconde division, et il est inamovible dans cette équipe. Il a des stats assez exceptionnelles pour un joueur à l'époque qui était plus considéré comme un milieu relayeur. Je pense qu'il joue plus là en 8 ou en 10 du côté de Brighton. Tu expliques comment il est vu comment Gross, comme un illustre inconnu mais qui fait sa carrière tranquille dans son coin, ou c'est quelqu'un qu'on tu vois, à la rigueur on pourrait se poser la question pourquoi on l'essaie pas en équipe nationale d'Allemagne, tu vois, c'est un truc comme ça, quoi.
Ouais, alors il est vu, alors il est arrivé, tu sais, d'Ingolstadt, personne n'en a jamais entendu parler, mais recruté sur beaucoup sur les statistiques en fait, déjà à l'époque, et c'est un joueur qui fascine les Anglais dans un sens, parce que effectivement il est pas international, c'est pas un grand nom, et puis il aime pas du tout la lumière ou les projecteurs, les médias et tout ça, il est très très discret, très calme, mais c'est, pour moi, c'est l'intelligence footballistique incarnée, quoi. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'à Brighton, que Potter, dès que tu lui posais une question, par exemple quand tu rencontrais Potter dans un dîner ou quelque chose comme ça, dans une soirée un peu comme celle où j'aurais dû aller ce soir, Potter il parlait beaucoup à tout le monde, il est comme ça, il est très sociable, et tu lui parlais, tu disais Gross, il disait mais c'est incroyable, quoi, c'est l'intelligence, tu lui dis une chose, t'as même pas besoin de lui dire à l'entraînement, il a compris tout de suite ce qu'il faut faire, il a une vision du jeu, il a une compréhension du jeu qui est largement au-dessus de la moyenne, il a un QI footballistique fantastique, et c'est pour ça que lui en tout cas adorait travailler avec lui. Je pense que Desherby adora travailler avec lui aussi, parce que faut reconnaître quand même que il a pas non plus la en termes de vitesse, c'est Nico Jamin, quoi, tu vois, et encore Nico Jamin des meilleures années, hein. Mais il n'a pas besoin, finalement.
Moi, j'aime bien. Il m'a vu jouer au foot.
Il n'a pas besoin. Oui, oui, bah oui.
Il
c'est vrai que c'est ce joueur à l'ancienne.
T'as déjà mis un tacle à Nico Jamin dans l'échange de mail aujourd'hui.
Qu'est-ce que j'ai fait encore?
Il me trouve meilleur que Trent, Alexander Arnold. Chaussettes baissées, en plus. Mon style Laurent Blanc.
C'est beau. Exactement. C'est beau. Mais voilà, donc j'adore ce que Potter en a fait et ce que Desherby va en faire.
Justement, transition toute faite, mon cher Johan, je me tourne vers toi. Desherby, Sassuolo,
oui,
Armand Lorienté, qui arrive de Lorient et qui s'est intégré à une vitesse hallucinante à Sassuolo. Je rappelle, une grosse victoire encore ce week-end contre la Salernitana.
Ouais.
4 matchs, un but de passe pour l'orienter des gens derrière.
Victoire 5-0 contre la Salernitana, il marque un joli but d'ailleurs.
Et pas une référence absolue non plus. Hein.
Non, c'est pas une référence absolue, mais honnêtement, mais les débuts sont très bons. Alors j'ai parlé un peu avec son entourage aujourd'hui, et on a discuté un peu des conditions d'arrivée et pourquoi il avait choisi Sassuolo, parce que c'est toujours très intéressant de comprendre la démarche. Au-delà du fait qu'il y avait une offre, donc il
15 millions,
un peu moins que ça, c'est 11 plus quelques bonus, ouais, je crois, de mémoire. Ce qui est intéressant, c'est que déjà Sassuolo fait envie. Et ça, ils font envie, c'est pas parce que la ville de Reggio Emilia où ils jouent le week-end est géniale.
Belle-Ville.
Pour y être allé, non.
Non.
Ah, en plus, pourri, j'y suis allé. En plus, j'y suis allé un jour de pluie, un derby sous 10 000 litres de pluie. C'était catastrophique un dimanche.
On a parlé avec Maxime Lopez pendant la tournée de l'After cet été. Ouais. On avait compris que lui, il avait un peu envie de partir.
Ouais, bah Reggio, c'est pas terrible. Après, Modène est un peu plus joli qui est à côté. D'accord. Mais tout ça pour dire que Sassuolo fait envie parce que cette équipe joue bien. Et quand tu as une équipe qui a un style de jeu qui met en valeur les joueurs, ces joueurs-là, ensuite, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'ils vont s'éclater le temps où ils vont être à Sassuolo. Et s'ils sont mis en valeur, ils vont voir l'étape d'après. L'étape d'après, aujourd'hui, c'est Stefano Sensi qui était parti de Sassuolo pour aller à l'Inter, Demiral qui était parti de Sassuolo pour aller à la Juve, Boga qui est parti de Sassuolo pour aller à l'Atalanta, Raspadori qui est parti de Sassuolo pour aller à Naples, Scamacca qui est parti de Sassuolo pour aller en Première Ligue. Voilà, quand tu as un football qui met en valeur tes éléments, forcément ça donne envie. Et le choix de Sassuolo, il y avait des offres de clubs allemands, il y avait des clubs anglais, il y avait des clubs français, il y avait le Torino aussi en Italie, un club dont on a beaucoup parlé. Il y avait, chez Armand Lorienté et son entourage, la volonté de trouver un cadre qui permettrait à Lorienté de franchir un cap. Alors à la fois en termes de niveau, parce que Sassuolo, c'est... La position de Sassuolo en Serie A est plus, alors pas cette saison, le début de saison de Lorient est assez incroyable, mais sur le papier, la position de Sassuolo est plus forte et plus enviable que celle de Lorient, parce que le jeu valorise les joueurs et parce qu'il y avait un football de possession. Et l'année dernière, Lorient jouait beaucoup en transition. Et quand un joueur veut se développer, faut aussi qu'il voit plusieurs types de football. Et il y avait une vraie recherche d'une équipe qui était proactive, qui avait le ballon, qui avait cette ambition de jouer au ballon.
Ça, c'est la réflexion de l'orienté de son entourage.
Exactement.
Intéressant.
Et c'est ce qui a fait, notamment pencher la balance pour Sassuolo, au-delà de tout le projet de jeu, la valorisation du joueur, quelle peut être l'étape successive par rapport à Sassuolo. Ce qui était essentiel pour lui, c'était vraiment de progresser sur attaque placée, donc sur les phases de possession. Et puis, cette idée d'avoir vraiment, on choisit un club, on choisit pas un club parce qu'il fait la meilleure offre financière ou parce que. Alors, bien sûr qu'il y a une belle offre financière, hein, mais je pense que l'Orienti, il aurait gagné plus en première ligue, comme après tous les joueurs qui vont en première ligue. Mais c'est vraiment de se dire, t'as 23 ans, et bientôt 24, tu sors d'une très bonne saison à Lorient, gagner de l'argent, t'auras le temps d'en gagner. Et en plus, tu vas pas en perdre en allant ça solo, loin de là. Aujourd'hui, tu as besoin de ça, ça et ça pour progresser en tant que joueur. Et quoi qu'il arrive, le plus grand club, le plus d'argent, tu le retrouveras derrière. Donc honnêtement, ce qu'il fait aujourd'hui est très intéressant. Et je peux vous dire que quand Berardi sera de retour à droite, puisque l'Orienté joue à gauche, les côtés vont être très très animés parce que c'est dribbleur. Ça va vite, ça tire de loin. Il y a beaucoup de qualité chez ces ailiers-là qui font que ça peut être assez imprévisible parce qu'ils peuvent jouer très bien au sol et progresser mètre par mètre et aller jusque dans la surface de réparation, mais l'Orienté, frapper de 30 mètres ou 25 mètres, on l'a vu en Ligue 1, ça lui pose pas de problème. Berardi, même chose.
Et notamment sur coup franc également.
Exactement.
Voilà pour l'Orienté, un mot de Maxime Lopez, très rapidement, qui a été encore très bon ce week-end.
Homme du match selon la Gazzetta, et voilà. Honnêtement, il a fait un match, moi j'ai vu évidemment le match.
Qui aimerait aller voir plus haut, il nous l'avait dit notamment.
Non, mais c'est logique qu'il ait cette ambition-là, mais honnêtement, moi je trouve que Maxime, moi je le voyais jouer à Marseille, je le vois aujourd'hui à Sassuolo. Il est, je pense, plus conscient de ses qualités aujourd'hui, parce qu'il enchaîne les matchs et qu'il voit qu'il a le niveau. Il s'est développé physiquement. C'est quelque chose de vraiment très impressionnant. Aujourd'hui, il répète les efforts sans aucun problème. Il accompagne les occasions. Pendant 90 minutes, il a un jump qui est beaucoup plus important au pressing, etc. Et puis, l'expérience qu'il a acquise avec De Zerbi, avec Dionysi, sur la gestion des temps forts, des temps faibles, quand accélérer le jeu, quand le ralentir, quand jouer vertical, quand jouer horizontal. Ça fait un joueur qui est vraiment complet. Il pourrait, je pense qu'il aura du, son profil, son gabarit fait que ça lui mettra des freins dans certains clubs. Je le vois pas, par exemple, aller à la Juve. Je le vois pas aller à l'Inter. Même à Milan, il recrute autrement à ce poste-là.
Pourquoi pas en Espagne, par exemple, hein.
Pourquoi pas en Espagne, oui, mais même pourquoi pas à la Roma, à la Lazio, au Napoli, etc.
Voilà pour Sassuolo, les gars. Alors, je me suis ridiculisé tout à l'heure, je tiens à le dire. Transparence. Quand j'ai parlé de spécialité culinaire à Fribourg, j'ai pensé à la Suisse.
Ok, Polo.
Non. Voilà pourquoi Polo.
Quand t'as tapé sur Google, il y a la Suisse qui est
Genre Julien.
Non, le pire, c'est que les deux villes ne sont pas loin l'une de l'autre.
400 bornes, je regardais là, tu vois. Alors là, je me suis ridiculisé, les gars.
Qu'est-ce qu'on mange à Fribourg allemand, là, avant?
Alors, il y a autre chose. J'en parlerai tout à l'heure. Voilà, les gars. En tout cas, à Bilbao, c'est bacalao pil-pil.
C'est la c'est pour ça. Ça brouille. Attends. Et puis et les viandes, les côtes de bœuf basques, c'est un truc de malade.
Dans un instant, les gars, on va continuer avec vous.
Il y a des
vous.
Gens qui nous disent qu'il ne faut plus manger de viande.
C'est dramatique. Ils veulent votre mort. Moi je veux votre mort.
Bah, écoute, moi, je suis partie des gens qui disent
personne
qu'il faut manger
ne veut votre mort, les amis.
Un peu moins, simplement.
Oh là là là. Bon, allez. C'est fou quand on des choses comme ça.
C'est premier producteur de CO2, c'est la viande, consommation
mais
de viande.
C'est dingue, ça.
Eh oui, Polo.
Dire des choses comme ça.
Mais c'est la réalité, c'est factuel, c'est scientifique.
Mais non, c'est sur les
dix. C'est une réception.
Vous écoutez
discussion de bourgeois, c'est les petits bourgeois.
Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After sur RMC avec Polo Breitner, Fred Armel, Julien Laurence et Johan Crochet. Oui. Bon, on est en plein débat. Véganisme.
Bah, il faut le dire. Il y a une forte opposition entre Fred Armel, qui est un viandard, et Johan Crochet, qui ne mange quasiment pas de viande. C'est tout.
C'est pas possible, ça. Mais dire aux classes populaires, c'est vraiment des réflexions de petits bourgeois. C'est la même, c'est exactement. Il faut manger moins de viande et tu dis aux classes populaires où ils peuvent même pas bouffer de la viande par semaine. Excusez-moi, madame, vous direz à vos enfants de manger un peu moins de viande. Donc ça, c'est des trucs insupportables. C'est la même chose pour les bagnoles. Ah, monsieur, oui, vous gagnez quand même 800 euros par mois. Ben non, vous allez changer de bagnole. Moi, excusez-moi, je n'utilise, j'ai mon 4x4, mais une seule fois par semaine, je l'utilise. Alors. Ça va, la Rousseau, c'est la Rousseau encore, ça, non?
Vas-y, Johan.
Non, moi j'ai juste un la truc. Rousseau, j'ai juste un truc très simple. Polo, tu ne connais pas tant que ça, donc ton petit bourgeois insupportable, tu te le rembasses très vite.
Non, je ne rembasse pas du tout très vite. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. T'as changé de classe.
C'est du langage de merde.
T'as changé de classe.
Je voulais pas que ça tourne comme ça.
T'as changé de classe, mon gars. T'as changé de classe et tu prends les codes très classiques de la petite bourgeoisie. C'est exactement
pareil. Écoutez, les gars, la colombe de la paix vient d'arriver dans le studio.
Donc il y a une engueulade et on ne convie pas.
Le pasteur est là. Bonsoir, Thierry.
c'est vrai que t'as l'air un peu pasteur.
Ah oui, il a mis en pasteur ce soir.
Donc, Polo s'énerve en plus contre Johan, ce qui normalement ne doit pas arriver, et je ne suis pas convoqué. Je suis déçu.
Non mais Johan, il faut dire
tu es venu parce que
ton choix dans le langage de Polo, c'est jamais
grave.
Mais
oui, il a rigolé après.
Vraiment, ne le prends pas mal.
Non, Daniel, non.
Mais on peut changer de classe.
Il ne le prend pas super bien pour l'instant.
Non, et en plus changer de classe, il me connaît pas, mais comment il peut avoir des jugements comme ça, c'est insupportable. Mais c'est insupportable, gars. Moi, je laisse pas passer ça.
C'est parti d'où en fait. C'est parti d'où.
Mais d'où il parle
de rien. De rien du tout.
Non, c'est parti d'où.
Il
n'avait
pas besoin de parler de ça.
Julien, tu veux dire un truc ou pas?
C'est mon bourgeois pour manger de la viande.
Julien,
si tu manges de la viande, t'es bourgeois. Si tu manges de la viande, t'es ouvrier.
Ah, y a un seul,
t'as rien compris au discours que j'ai dit.
Il y a des ouvriers qui mangent pas de viande.
Seul bourgeois ici, Julien Laurence, Nico Jamin.
Ben justement,
nous venons tous des classes populaires.
C'est vrai.
Le reste, nous venons tous des classes populaires.
Bien sûr, ils connaissent nos vies mieux que nous, évidemment.
Nico.
3-0 pour Leicester, sinon contre Nottingham.
Merci, Julien. Bravo, Julien. Je rappelle que vous écoutez Génération After sur RMC.
C'est pas valoriser le fait de venir de classe populaire, mais moi j'y viens, je le valorise pas, je m'en fous quoi.
Mais toi tu la ramènes beaucoup trop,
qu'est-ce que ça peut foutre aux gens?
Mais comme il ne peut pas accuser les gens qui sont de milieu bourgeois.
Exactement.
Voilà, arrêtez avec
moi cette espèce de ségrégation sociale à l'envers. Exactement. Moi ça m'énerve.
Voilà,
j'ai jamais glorifié.
Polo.
Voilà.
Non, ça fonctionne comme ça.
Les gars,
Gonzalo
Higuain a pris sa retraite. Il a annoncé aujourd'hui. Spontanément, je vous demande les gars, qu'est-ce que vous retenez?
Moi, je l'ai bien connu, Madrid.
Non, mais c'est pas si tu l'as connu. Qu'est-ce que tu retiens? Une image.
Une image. Attends, je vais te dire.
Moi, j'en ai une.
Moi, je l'ai bien connu à Madrid. Faut pas oublier qu'il était né à Brest.
Tout à fait. Domenech essaie de le rapatrier.
On t'a demandé une image, parce que Wikipédia.
J'ai expliqué. Pour moi, la carrière de Gonzalo Higuaín était une fraude, comme son papa. Ben oui, c'est un petit attaquant.
Il a fait 300 buts en professionnel.
Oui, mais pour moi, je l'ai vu louper. Il a loupé tous les grands moments, donc c'est tout.
299.
Oui, mais c'est quelqu'un qui a manqué tous les grands moments. Parle-en à l'Argentine en finale contre l'Allemagne, n'est-ce pas, Polo? Voilà.
Je sais bien, d'accord, mais.
Oui, mais non, mais c'est tout. Moi, je trouve que c'était un joueur surestimé.
T'es pas une fraude.
Et il y avait tout un truc autour de son père. L'histoire de jouer avec l'équipe de France, c'était un truc monté par son père pour faire monter les enchères quand il est allé au Real Madrid. Voilà. Donc, je trouve que Gonzalo Higuaín, qui est un garçon gentil au demeurant, n'a jamais été le grand attaquant qu'on a voulu nous vendre.
Écoutez ce que Fred disait de Gonzalo Higuaín, souvenir.
C'est un sous-doué du football, on l'a encore vu ce soir.
Voilà, je suis constant. Et ça, c'était quoi, il y a 10 ans?
Bon, je rappelle quand même ses stats, hein. C'est toujours intéressant. Oui, hein. Mais 570 matchs, 299 buts, 100 passes, c'est bien que la valeur d'un joueur n'est pas forcément liée.
Et tous les buts manqués dans les moments importants, ça n'arrive pas par hasard.
Peut-être, mais c'est pas un sous-doué parce qu'il y a
un très bon attaquant, même s'il y a des joueurs, il y en a quelques-uns. Tu sais, pour certains, Joe, l'image qui reste, c'est le péno raté en 94. Et pourtant, Dieu sait, c'était un joueur, un de mes joueurs préférés, Ballon d'Or et tout ce que tu veux. Mais l'image forte, certes, parfois, les grands moments font des images fortes négatives. Et c'est vrai que la finale de la Coupe du Monde 2014, cette occasion où il est seul et où je sais pas comment il top cette frappe là qui part un peu bizarre et toute mollassonne. Oui, cette image, moi, elle m'est restée de lui. Par ailleurs, c'était un très bon attaquant.
Mais il y en a eu beaucoup d'images comme ça.
Pas un attaquant peut-être qui a marqué l'histoire du football. Il n'est pas dans les 10 plus grands attaquants certainement. Mais c'était un très bel attaquant, un bon numéro 9 des 10-20 dernières années.
Il a planté à la Juve aussi quand même. Voilà. Johan.
Et le record qui
36
buts
en Serie A.
Bah oui.
Le record qui datait de 50 ans. À Naples.
Non, très bon attaquant.
Ça pose un joueur quand même, les gars.
Ouais.
On me demande, les gars, dans les sujets des nouvelles à toi, Johan, de Samuel Umtiti à Lecce.
Bah, c'est beau, Lecce.
Très belle ville.
Belle ville, hein.
Magnifique.
On mange bien.
Pour l'instant, je suis désolé, il n'y a pas grand chose d'autre à dire que Lecce est une très belle ville, quoi.
Non, mais tu l'as vu jouer. Quoi.
Mais non, il n'a pas joué encore.
Il n'a pas encore
joué. Mais non, il joue pas.
Pas une seule seconde.
Toujours pas, j'ai pas su.
C'est pour ça qu'on dit ça. C'est
qu'il est disparu.
Il faut qu'il profite de l'endroit où il est.
Ouais, c'est tout. Non, mais le problème d'Umtiti, c'est ça. Non, mais on en discute en antenne, mais on va le dire. Le problème d'Umtiti, c'est qu'avant la Coupe du Monde de 2018, il a un problème, il a un gros problème au genou, récurrent. Le Barça veut qu'il s'opère. Il y a un risque qu'il loupe la Coupe du Monde. Il joue la Coupe du Monde à moitié blessé, il est géré par Deschamps et il est champion du monde.
Mais la Coupe du Monde reste un moment magique pour lui parce que d'une, il est très fort.
Il est, ouais.
il fait une très belle Coupe du Monde, c'est un sommet dans une carrière de champion du monde.
Juge pas.
Et derrière, c'est fini.
Je juge pas.
Derrière, il a forcé, malheureusement fini pour lui.
Il a forcé pour la Coupe du Monde.
Exactement.
Et il s'est jamais remis.
Exactement.
Il s'est fait opérer plus tard. Et c'est un joueur dont la carrière est quasiment terminée.
Et qui profite des pouilles. C'est comme un gars qui, par malheur, serait blessé.
On mange bien dans les pouilles.
À Séville ou à Cadiz. Bon, même, profite de la région. C'est bien, où t'es. C'est bien là où t'es.
Il fait beau, non, mais je veux dire, mais à un moment, il va faire le calcul de sa carrière. Il dit oui,
il a 28 ans. Il a
28 ans, mais je suis champion du monde. Ma carrière a été finie très tôt, mais je suis champion du monde.
Voilà, exactement.
Voilà donc pour Samuel Umtiti.
C'est plus chiant pour les gens qui le payent, mais ça, c'est autre chose.
Dans un instant, Daniel, tu veux parler de Liverpool, je le rappelle.
Pas forcément, j'ai le droit de changer au dernier moment.
Liverpool est dans mes notes,
on ne sait jamais.
Ici, c'est imposé.
Voilà. Non.
Rappelle.
Je veux pas.
On va avoir une autre engueulade.
C'est monté en pression.
Je veux pas qu'ils se préparent comme ça à l'avance. J'ai besoin de les surprendre.
Oui, mon père.
Ça va, Johan ?
Ça va.
Allez, c'est le tranquille.
À tout de suite.
C'est moi qui vais le réveiller. Moi, je vais le réveiller. J'ai un bon sujet pour lui.
À tout de suite.
Voilà.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamain.
Génération After sur RMC, merci d'être avec nous. 21h47, Johan Crochet, Paulo Breitner, Julien Laurence, Fred Hermel et donc Daniel Riolo qui est avec nous comme tous les lundis soirs, 21h45. Les questions de Daniel, au drôle de dame, Daniel, tu as carte blanche.
Alors, je démarre avec quelque chose de général. Alors, franchement, vous pourriez faire tous une demi-heure dessus. Désolé, essayez de faire bref. C'est juste pour savoir, à titre informatif, est-ce que dans vos pays respectifs, il y a les mêmes débats qu'ici, il y a des politiques qui veulent pas mettre d'écran géant pour suivre la Coupe du Monde, il y a des gens qui disent que la Coupe du Monde c'est bidon, qu'ils la regarderont jamais.
Non. C'est un thème qu'on a fait pendant une demi-heure
Joker,
dernière,
mais c'est intéressant. Pas qualifié.
Ah oui, merde, c'est vrai. C'est vrai.
C'est pas ta soirée.
Johan, tu n'es pas dans cette discussion. Mais les autres, oui, bah bon, vous savez aussi, puisque vous suivez ce qui se passe en France, vous savez ce qui se passe en France. Donc est-ce que c'est plus, moins, beaucoup moins dans vos pays?
Bah, super rapide pour l'Espagne, c'est le débat n'existe pas en fait.
D'accord.
Là, ça gêne personne, quasiment personne.
Julien non plus, et en revanche, Polo, oui.
Julien non plus?
Non. Mais tu sais, moi, c'est pas le maire de la ville qui va, excuse-moi, Polo, juste rapidement, qui va décider. Ce sera dans tous les pubs, il y aura les télés partout, il y aura des grands écrans partout, il y aura des, ils vont s'arranger pour que il y ait plus de monde possible, qui paye une place ou qui s'achète à boire et tout ça. C'est un gros business aussi, hein, d'avoir l'Angleterre en Coupe du Monde.
Peu importe. Non, bien sûr. Ici aussi, les patrons de bar ont dit, non, mais vous avez pas un Pierre Urnic,
Pierre Urnic, le maire de Bordeaux, ouais.
Ah, pour l'instant, en tout cas.
Bon, ce soir, on l'a pris Paris aussi, hein, elle a dit ce soir.
Elle a confirmé.
Ouais, pas d'écran géant.
Ah oui, c'est comme comment elle va faire pour s'asseoir à côté de Nasser El Khelaifi
à partir de quand tu mets un écran?
Ouais, ça va faire bizarre. Et Marseille non plus, a priori, hein.
À partir de quand
c'est à la limite.
Marseille, c'est sûr.
Marseille, Bordeaux. À la limite. Mais Anne Hidalgo, qui est au Parc des Princes, qui la joue grande copine avec Nasser El Khelaifi depuis des années, je soutiens le PSG, le PSG Qatar et tout, et elle fait, et donc, là, ça va être compliqué, là.
Après, c'est intéressant ce sujet parce que les écrans géants sont une arme politique réelle. On l'a connu en Espagne. C'est-à-dire que lors de la fameuse, en 2010, quand l'Espagne,
championne du monde.
Et championne du monde en Afrique du Sud, Barcelone ne retransmet pas les matchs parce que c'est une mairie séparatiste, on appelle nationaliste en espagnol, qu'on traduirait par régionaliste. Et donc c'est aussi une arme politique, cette histoire d'écran. Donc moi, ça m'a pas surpris ici, puisqu'on a connu ça en Espagne.
Toi, Polo, oui, rapidement, on l'a évoqué la semaine dernière, mais c'est semblable à la France, quoi.
Pas sur
les écrans.
Écrans géants, pas à ma connaissance. En plus, on est dans un pays décentralisé, donc ça se passe pas comme ça. Non, pas à ma connaissance. Je peux avoir raté une info, mais c'est pas là-dessus que ça compte.
Et puis, excuse-moi, mais écran géant dehors, novembre-décembre, en Allemagne.
Oui, non, mais ça, c'est un truc, moi, qui m'a...
Tu vois,
déjà, parce que les gens oublient, mais ça coûte très cher, hein, d'avoir un écran géant.
Bien sûr.
Pour les municipalités et tout ça. Et en plus, c'est une période...
Plus une sécurité également assurée.
Mater
un match de l'équipe d'Allemagne, mi-décembre, à Cologne, pas sûr.
Bah, et pire que ça, même Lille,
Paris.
Paris ou Lille, un 1er décembre, il peut pleuvoir, il peut geler, il peut froid.
C'est pas la meilleure période.
Madrid, en altitude, 600 mètres.
Madrid fait froid aussi.
Yohan Crochet. Je me souviens, fin août, on avait discuté ensemble d'un club que t'aimes bien, d'un club que j'aime bien, même si les supporters se sont illustrés contre mon cher Sud en les traitant de cutéreux comme d'habitude. Mais j'aime quand même bien l'Atalanta, même si il y a énormément de gros racistes dans leur tribune. Ils sont encore deuxième.
Premier que c'est quoi même.
Effectivement, avec 20 points. tu savais pas trop te positionner. Tu disais il y a eu des départs, il y a eu mine de rien il y a presque un trou parce que la Lazio, je trouve pas ça formidable. Milan, on peut penser que ça peut remonter parce que c'est quand même une belle équipe, mais Udinese et Rome, la Roma, ça, moi, je les ai encore vus samedi contre l'Inter, c'est pas génialissime. La Juve est déjà à 7 points derrière. L'Atalanta, ça va faire podium, ça peut faire plus, ça peut faire.
Je sais pas parce que moi qui ai tant aimé l'Atalanta, c'est sans doute l'Atalanta la moins Atalanta qu'on voit depuis le début de la saison. Et c'est une Atalanta qui gagne beaucoup de matchs comme Gasperini aurait aimé ne pas les gagner il y a encore 2 ou 3 ans. C'est une équipe qui surperforme devant le but, c'est une équipe qui surperforme défensivement parce que leurs gardiens font beaucoup d'arrêts. Dans le jeu, il se passe rien. Enfin, pas grand-chose. C'est pas une équipe qui joue bien. J'ai regardé un petit peu aujourd'hui pour parce que l'impression virtuelle est une chose, mais je voulais la confirmer par des chiffres. C'est une des équipes qui a moins souvent le ballon en Serie A.
Ah oui.
Ouais. Ils sont 15e en termes de possession. C'est une équipe dont les tirs cadrés sont les moins dangereux en Serie A et les moins dangereux de toute l'Europe. Top 4 européen plus Ligue 1.
Tout ça qui en fait un co-leader de Serie A. Quoi.
Ouais, mais c'est.
Mais attention, la Serie A en ce moment, c'est pas génial.
En termes de jeu, c'est pas fou.
C'est pas fou hein, ce qu'on voit là-bas.
Mais attention, moi, je trouve qu'il y a un nombre de blessés qui est anormal et que je vois pas forcément dans les autres championnats. Là, en Serie A, c'est une hécatombe dans plein de clubs et je sais pas ce qui se passe en termes de préparation, mais c'est vraiment problématique. Il y a beaucoup de bons joueurs qui sont souvent sur le flanc. Mais est-ce qu'ils pourront être dans les 3 ou les 4? Oui, tout à fait. Maintenant, il faudrait quand même que cette surperformance s'inscrive sur 38 journées.
Ouais.
Je sais pas si ça peut tenir quand même à ce point-là.
Julien Laurence.
Daniel Riolo.
Il y avait 2 derbies ce week-end.
Au tableau.
Il y en a un qui a fait beaucoup parler hier, là. Mais l'autre, le derby de Londres, le seul et unique vrai derby de Londres, parce que les autres, on sait bien que c'est du pipi de chien, n'est-ce pas? Ou de chat, même si tu préfères. Donc Arsenal-Tottenham. Tottenham, on doit en penser quoi? Conte, c'est pas génial, finalement. Ça reste accroché à la 3e place. Mais donne-moi un avis sur cette équipe dirigée par Conte.
Moi, je trouve que la frustration est en train de monter un petit peu quand même, malgré tu as raison, la bonne position au classement. J'étais au match samedi et on en revient. Mais c'est un débat qu'on a eu plein de fois avec Johan quand il était en Italie, avec toi, Daniel. Moi, je comprends pas avec cet effectif-là que tu joues de cette façon-là, en fait. C'est quelque chose. Je l'ai regardé jouer en première période. J'étais du côté où j'étais assis, donc en face de moi, j'avais la moitié de terrain où Tottenham défendait et Arsenal attaquait. Et je voyais très bien. Et c'est très beau à voir, bien sûr, la solidité défensive. C'était bon, bien huilé, c'était même bien organisé. Après, c'est plus facile de jouer aussi bas. Et comme on l'a souvent dit, hein, c'est beaucoup plus facile de mettre en place une structure défensive très efficace qu'une structure offensive très efficace, forcément, puisque t'as pas le ballon. Donc, mais quand même, c'était très beau. Ils défendaient très bien. Il y a aucun problème. Mais qu'avec le ballon, ce soit si minimaliste, encore une fois, moi je trouve ça frustrant et je suis même pas supporter de Tottenham. Et moi je comprends pas pourquoi. Peut-être que Conte ne peut pas le faire, mais avec les joueurs qu'il a, de proposer si peu, mais pas que dans ce match-là. Hein, depuis le début de la saison, quand il gagne, c'est rarement très flamboyant. Alors il y avait la victoire contre Leicester avec le triplé de Son en 13 minutes, mais avant ça, c'est très laborieux aussi. Tous les matchs qu'ils ont joué cette saison à Nottingham Forest contre West Ham, c'est très laborieux aussi. À Chelsea, ils font 2-2, c'est miraculeux. T'as un joueur comme Perisic, il est jamais servi. Et en plus, dans un match comme celui-là, Conte fait n'importe quoi dans son changement après l'expulsion d'Emerson. Et moi, mais le pire, finalement, Daniel, pour terminer, c'est que si t'es supporter de Tottenham, que t'es mené 3-1 à l'extérieur à Arsenal dans le match le plus important de la saison, et d'accord, t'es à 10 contre 11, mais tu sais pas ce qui peut se passer. Tu peux marquer sur coup de pied arrêté, tu peux marquer un but, revenir à 3-2, et après, tu sais pas ce qui peut se passer dans les 10 dernières minutes, 15 dernières minutes, et que tu fais sortir. Tu fais les quatre remplacements, en même temps, et tu fais sortir Richarlison, Son, et clairement, t'abandonnes le match, en fait. Tu dis, bah voilà, ça sert à rien de jouer, je fais rentrer des pipes et des mecs défensifs pour pas en prendre un 4e, finalement. Moi, si j'étais supporter de Tottenham, ça me rendrait fou. Mais sincèrement, ça me rendrait fou. Et je trouve qu'aujourd'hui, il a échappé au pire Conte dans les médias et sur les réseaux sociaux de la part des supporters. Je trouve qu'on s'est très gentil avec lui parce que moi, Mais balancer un match comme ça en faisant ces 4 changements là, je trouve ça inacceptable.
Avec ton micro, Daniel.
Mine de rien, en Angleterre, il a encore une bonne cote parce que ouais. Son CV est encore très présentable, quoi.
Ça te protège combien de temps, ça? Attention.
Je sais pas, mais probablement un petit peu. On n'a plus beaucoup de temps, j'accélère. Polo, tu préfères me parler de Dortmund ou, en voyant les buts de Bundesliga, j'ai revu la tronche de Kovacs. J'avais oublié qu'il était retourné en Bundesliga et à Wolfsburg, où ça va pas fort.
Pour lui. C'est compliqué pour lui, même si le but dans les arrêts de jeu de Gerhard fait du bien au FOFL, mais le club est toujours derrière lui. De toute façon, Wolfsburg, c'est un peu comme Leverkusen. Comme il n'y a pas une énorme pression du public, comme ça dépend du multinational, en l'occurrence Volkswagen, il faut que les joueurs se motivent eux-mêmes. Or, on est en train de changer de génération, on a racheté des jeunes, etc. Il y a évidemment une équipe qui est faite pour aller en Europa League, mais voilà, ça fonctionne pas depuis le début de la saison. Il a commencé à gueuler d'ailleurs, de toute façon. Pour l'instant, les dirigeants sont derrière lui. La victoire contre Stuttgart a fait énormément de bien d'ailleurs, je trouve. Donc, on verra en fin de saison. Au moins, on fera un bilan à la mi-saison, mais il devrait remonter normalement, logiquement, en milieu de classement.
Tu peux me faire 10 secondes sur Jamal Musiala, s'il te plaît, Polo, parce que beaucoup le réclament sur Direct Studio.
Ouais, mais il est monstrueux. C'est-à-dire qu'il est. Ah oui, d'ailleurs, Thomas Müller et Kimmich sont covidés, donc sont absents contre le match, contre Pilsen. Donc, il sera à nouveau meneur de jeu. Il est extraordinaire, tout ce qu'il fait, un but de passe décisif contre Leverkusen. La seule question qu'il faut savoir, c'est à quel moment il va remplacer Thomas Müller pour devenir le meneur de jeu de cette équipe du Bayern.
Parfait, efficace, synthétique. Merci Fred, Polo, c'est terminé.
Ah, c'est terminé.
Eh ben, et moi alors.
Je voulais savoir si ça existait, le concept de bête noire en Espagne. C'est quoi ce gardien qui
est. Bestia Negra.
C'est quoi ce gardien arrêté... qui fait peur à Benzema?
Voilà, bah Benzema.
Fait en 20 secondes?
En moins. Benzema, contre Osasuna dans la saison dernière, avait loupé deux pénaltys face à Sergio Herrera. Et de nouveau, Osasuna hier pour le but qui devait être le but de la victoire, et Benzema a frappé sur la barre. Donc
c'est fou.
C'est vrai que Sergio Herrera a empêché Benzema de marquer trois pénaltys.
Il le fait peur.
Voilà pour les drôles de dames dans Génération After. Merci Johan. Merci
le fantastique public de l'Atalanta.
Merci, c'est ironique évidemment. Merci Fred, merci Julien.
Ciao, ciao.
Et également, bonne soirée les gars, votre semaine Ligue des Champions. La Ligue 2 rapidement, Xavier Grimaud, Laval Bordeaux.
Ouais, c'est reparti depuis 10 minutes. Énorme occasion pour Bordeaux, 1-0 pour les Girondins. Il souffle Sissoko et la parade encore de Johan Sauvage, le gardien de Laval qui maintient Laval dans le match. C'est très équilibré, mais les occasions les plus franches sont quand même bordelaises. 1-0 pour les Girondins. Le buteur, on le rappelle, c'est Maja, 5e.
À tout à l'heure, Xavier, la suite de ce match dans l'after avec Daniel et Gilbert dans un instant. Merci à tous d'avoir écouté Génération After. À plus tard.
Génération After.